RFI, 17h à Paris, 16h à Londres et en temps universel.
Guillaume Ouattara.
L'heure d'un nouveau journal avec à la une Londres, justement, où le président ukrainien Volodymyr Zelensky joue son va-tout. Après son clash hier avec Donald Trump, il cherche à consolider son soutien en Europe alors que l'unité du front occidental vacille. Aux États-Unis, Trump s'attaque à la météo. L'administration républicaine licencie en masse à la NOAA, l'agence qui surveille ouragans et catastrophes naturelles. Au Proche-Orient, publication d'une nouvelle vidéo d'otages israéliens captifs à Gaza, tandis que la première phase du cessez-le-feu termine ce soir. En Corée du Sud, la rue contre la loi martiale, des dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie mobilisés à Séoul. Et puis Mayotte défend sa vanille, c'est au salon de l'agriculture à Paris. Fragilisé par le cyclone Chido, les producteurs de l'île comptent bien faire rayonner leur savoir-faire. Volodymyr Zelensky vient donc d'arriver à Londres après son altercation explosive hier avec Donald Trump à Washington. Une visite sous haute tension alors que l'Ukraine cherche à rassurer ses alliés et à consolider son soutien international. Avant même son arrivée, le président ukrainien a tenté d'apaiser les tensions en se disant prêt à signer l'accord sur les minerais stratégiques avec les États-Unis. Malgré l'échec des négociations à la Maison-Blanche, « Nous sommes prêts à signer cet accord », a-t-il déclaré sur le réseau social X, tout en insistant sur le besoin d'un engagement américain plus large. Cet après-midi, Zelensky doit rencontrer le Premier ministre britannique Keir Starmer avant un sommet européen clé demain, mais l'unité du front européen vacille. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, exhorte Zelensky à réparer sa relation avec Trump pendant que Viktor Orban menace de bloquer toute décision en réclamant des décisions directes avec Moscou. Dans ce contexte, l'Ukraine tente de maintenir son soutien militaire alors que la chef de la diplomatie européenne plaide pour des livraisons d'armes accrues. La Russie progresse quant à elle sur le terrain. L'Europe doit trancher. Faut-il renforcer son aide militaire ou chercher une nouvelle stratégie diplomatique face à un Washington plus incertain? La question est tranchée pour Annalena Baerbock. Elle est ministre fédérale allemande des Affaires étrangères.
Hier soir, nous l'avons bien compris, une nouvelle ère d'infamie a commencé. Une ère dans laquelle nous devons plus que jamais défendre l'ordre international fondé sur des règles et la primauté du droit contre la loi du plus fort. Sinon, aucun pays libre ayant un voisin plus puissant que lui ne pourra dormir tranquille. Pour nous, une chose est claire, nous soutenons une Ukraine souveraine et libre. L'Ukraine fait partie de l'Europe libre et démocratique. Ne nous trompons pas d'ennemis. Il est au Kremlin et non à Kiev, non à Bruxelles. Hier, nous l'avons vu, nous, Européens, ne devons pas pécher par naïveté. Nous devons défendre nos intérêts et nos valeurs, ainsi que notre sécurité pour nos citoyens en Europe.
Annalena Baerbock, ministre fédérale allemande des Affaires étrangères. Aux États-Unis, l'administration Trump intensifie son contrôle des fonctionnaires fédéraux. Un deuxième courriel a été envoyé vendredi aux employés de l'État, leur demandant de détailler leurs tâches récentes, alors que Donald Trump et Elon Musk poursuivent leur politique de réduction des effectifs. Une politique qui s'est traduite par plusieurs centaines de licenciements à la NOAA, l'Agence océanique et atmosphérique nationale des États-Unis. C'est ce que révèle un député démocrate de Californie. Cette fois, l'administration de Donald Trump s'en prend à l'instance qui traque les ouragans et autres catastrophes météorologiques. Linda Rousseau.
Ils sont climatologues, ingénieurs, météorologues et ils sont 800 à avoir perdu leur poste du jour au lendemain, selon les informations du New York Times et de CBS. Après la suppression de milliers de données scientifiques en accès public, la disparition de la page de la Maison-Blanche consacrée au changement climatique, l'administration américaine s'en prend à la NOAA. Cette agence nationale est la plus importante du pays pour prévoir les événements météorologiques, analyser l'évolution du climat ou encore préserver les océans. La NOAA n'a pas souhaité réagir à ces annonces qui font par ailleurs du bruit du côté des démocrates. Pour la sénatrice Maria Cantwell, ces licenciements compromettent la capacité des États-Unis à répondre aux événements climatiques extrêmes. Les politiques climatiques qui sont dans le collimateur de Donald Trump, elles sont aussi la cible du projet 2025. 900 propositions politiques élaborées par un think tank conservateur de droite. L'agence y est décrite comme l'un des principaux moteurs de l'industrie de l'alarme sur le changement climatique.
Des explications signées Linda Rousseau pour RFI. À Rome, le pape François face à une nouvelle alerte respiratoire après une crise de bronchospasme vendredi. Son état reste préoccupant malgré une nuit tranquille selon un communiqué du Vatican. Hospitalisé depuis plus de deux semaines pour une double pneumonie, le souverain pontife de 88 ans montre des signes de fragilité. Les médecins surveillent de près son évolution tandis que l'inquiétude grandit parmi les fidèles. RFI 16h05 en temps universel. Au Proche-Orient, l'avenir de la trêve reste incertain. Alors que la première phase de l'accord entre Israël et le Hamas s'achève aujourd'hui, la branche armée du mouvement islamiste publie une nouvelle vidéo montrant plusieurs otages israéliens captifs à Gaza. Un message à la fin de l'enregistrement affirme que seul un accord de cessez-le-feu les ramènera vivants. Le Hamas affirme vouloir appliquer l'intégralité de l'accord, exigeant donc ce cessez-le-feu permanent, un retrait israélien total et la levée du blocus, tout en rejetant toute présence étrangère à Gaza. De son côté, Israël veut prolonger la première phase pour négocier la libération d'autres otages et maintient la possibilité de reprendre les hostilités si le Hamas ne dépose pas les armes. En Corée du Sud, des dizaines de milliers de manifestants dans les rues aujourd'hui. C'est le jour du mouvement pour l'indépendance. Mais la crise politique éclipse cette date. Il y a trois mois, le président Yoon Suk Yeol déclarait la loi martiale. Quelques semaines plus tard, l'Assemblée nationale destitue le chef d'État. Décision finale de la Cour constitutionnelle attendue pour mi-mars. Notre correspondante à Séoul, Camille Ruiz, est allée à la rencontre des manifestations pro-démocratie.
Près de la station Hanguk, au cœur de la capitale, trois jeunes femmes tentent de se frayer un chemin parmi la foule. Elles portent les hanbok, ces robes traditionnelles coréennes colorées. Hong Eun-gi a choisi le bleu, couleur du Parti démocrate.
Ce 1er mars, c'est l'anniversaire du mouvement de l'indépendance. Un jour très important ici en Corée du Sud. J'ai entendu dire que les forces d'extrême droite qui soutiennent le président Yoon Suk-yeol se rassemblent aujourd'hui. Mais ils osent porter le drapeau coréen et parler de démocratie. Ça me met tellement en colère. Et c'est pour ça que je suis venue.
Pas de hanbok pour Jung Byung-kun, 45 ans, mais une perche à selfie. Le bras tendu, ce célèbre youtubeur enregistre la manifestation en direct avec son téléphone pour sa chaîne aux plus de 200 000 abonnés.
Le président Yoon Suk-yeol a déclaré la loi martiale et a mobilisé l'armée contre les citoyens. C'est pour cela que nous devons résister et nous battre ensemble. Il n'est plus qualifié pour être président, c'est ce que je pense.
Cette semaine, la Cour constitutionnelle a terminé les auditions sur le procès en destitution de Yoon. Elle est actuellement en train de délibérer. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
À La Réunion, le cyclone Garance laisse une île meurtrie. 4 morts, des routes coupées, 160 000 foyers sans électricité et des dégâts considérables. L'alerte rouge est levée depuis ce matin, mais plus de 300 000 habitants restent privés d'eau potable et les infrastructures sont lourdement endommagées. L'État annonce des renforts, tandis que les sinistrés découvrent avec effroi l'ampleur du désastre. Les producteurs de Mayotte au Salon de l'Agriculture qui se tient jusqu'à demain, Porte de Versailles à Paris, quelques mois après le passage dévastateur du cyclone Chido. Ils sont venus défendre leur savoir-faire, notamment autour de la vanille mahoraise, moins connue que celle de la Réunion de Madagascar, mais tout aussi précieuse. Un reportage signé Sylvie Coffi pour RFI.
Alors ça sent quoi ?
C'est une odeur suave et sucrée, en poudre, en gousse, en pâte. La vanille mahoraise s'expose sous toutes ses formes.
Du sel mélangé avec de la vanille de Mayotte.
Abassi Dimassi est un jeune producteur. Il participe pour la toute première fois au Salon de l'Agriculture avec l'association Saveurs et Senteurs.
Cette année, nous sommes là, on a de la vanille qui correspond à la récolte 2024. Mais il faut savoir que pour les années à venir, on va avoir beaucoup de difficultés d'avoir de la vanille étant donné que les champs ont été détruits par le cyclone.
Un autre problème, l'accès à la terre.
Pour le moment, je rencontre des difficultés pour m'installer pleinement, notamment lié au foncier. Un foncier agricole qui est quand même très rare et pas très accessible à Mayotte. Pour le moment, j'ai pas de maîtrise foncière, c'est une parcelle familiale, mais je suis pas le seul ayant droit dessus. Et initialement, l'objectif était d'abord d'acquérir de l'expérience dans la culture de la vanille, la culture et la transformation, et aussi me constituer une réserve de bouture.
Mais après le cyclone Chido, il lui faudra encore du temps, près de 5 ans, pour que sa vanille soit de retour sur le marché local.
Un reportage signé Sylvie Coffi pour RFI, le salon de l'agriculture qui se tient à Paris, Porte de Versailles, jusqu'à demain. Il est 16h09 en temps universel. C'est la fin de cette édition. Retour de l'information dans 50 minutes sur RFI, la radio du monde.